Bonsoir, enfin bonjour, pardon. Va commencer cette discussion entre thème, donc un thème un peu ambitieux, enfin une annonce un peu ambitieuse, on est d'accord, mais c'est surtout pour poser des jalons sur des manières, les manières dont les unes et les autres nous travaillons. Donc moi je suis Sarah Friou-Salgas, je suis responsable des archives au musée du Quai Branly. Et je suis très heureuse de faire cette présentation avec Marianne et Aline parce que nous nous connaissons depuis plusieurs années. On travaille sur des sujets communs où on aborde des sujets de la même manière et on est dans les mêmes sphères de, disons, théoriques. Mais c'est finalement, d'une certaine manière, c'est un peu ça. Et donc, je suis ravie. Donc, cette année, elles étaient toutes les deux au musée, invitée comme chercheuse, donc Marianne ici qui était postdoc au musée et qui vous présentera ensuite le travail pour lequel elle a été invitée à travailler ici et qui par ailleurs anime depuis quand? Depuis 2013 un blog sur Hypothèse, Photota, avec Eric Animis, qui est dédié aux enjeux de la recherche sur les archives photographiques en Afrique. Et Aline, ici, qui est doctorante en histoire et qui est invitée à travailler au musée. Travaille sur l'histoire des scènes plastiques congolaises dans les années 40-70 sous la direction d'Odile Guerre. Voilà, pour moi, on est très heureux toutes les trois de pouvoir vous parler ensemble parce que ça fait vraiment un certain nombre d'années que, voilà, comme je vous le disais, qu'on réfléchit à des choses ensemble. Et comme elles sont là cette année au musée, c'était l'occasion un petit peu ce soir de vous faire part de nos méthodes de travail, des enjeux de nos recherches et de nos façons de faire et de là où chacune nous sommes. Donc, chercheuse, historienne de l'art et moi, archiviste au musée du Quai Branly, mais aussi commissaire d'un certain nombre d'expositions que je vous présenterai justement un peu plus tard et qui ça vous permettra un petit peu de comprendre pourquoi on discute toutes les trois ce soir. On va d'abord laisser Marianne parler un petit peu du choix de ce titre, Vers une histoire des arts à part égale, point d'interrogation. Et ensuite, comment dire, Aline continuera un petit peu pour introduire notre discussion et ensuite on parlera un petit peu chacune de nos recherches et de nos expériences sur les sujets autour des thèmes de cette discussion, de ce soir.
Merci beaucoup Sarah et bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme Sarah le disait, un titre très ambitieux. Et donc, bien sûr, on fait référence à l'ouvrage de Romain Bertrand. On s'est dit qu'il y a quelque chose à réfléchir. Donc, pour nous, là, c'est un peu en début. C'est-à-dire que l'ouvrage de Romain Bertrand se situe. On travaille sur la période moderne. Nous, on est plutôt sur la période contemporaine, donc aussi toute la question coloniale. On travaille sur ces premiers contacts entre les Hollandais et le monde javanais. Que forcément, il y a un décalage sur lequel il faut qu'on réfléchisse encore. Mais sa méthodologie, cette idée de travailler à parts égales, donc c'est ce qui veut dire en fait travailler de la même manière de la même manière sur les archives européennes auxquelles on a accès ici, tout autant que aux archives qui se trouvent dans le pays et qui peuvent relater d'autres histoires. Donc pour nous, là, c'est une invitation à un voyage qui va commencer. Donc c'est une histoire, effectivement, comme Sarah le disait, une communauté d'esprit et d'approche, mais on a l'impression que ce texte de Romain Bertrand, qui, encore une fois, se situe sur une période historique qui n'est pas la nôtre, peut être un moyen de stimuler, de nous pousser à réfléchir à nos. En guise peut-être de donc de citons donc Romain Bertrand quand il dit que cette donc l'idée il a eu pour projet donc de créer une histoire symétrique de la rencontre à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle entre Hollandais, Malais et Javanais. Et cette notion de symétrie renvoie dans l'acception de la sociologie des sciences à un principe de symétrie généralisée qui confère une égale dignité documentaire à l'ensemble des énoncés en présence. Autrement dit, on ne répartit pas d'entrée de jeu de façon théologique en vainqueur et en vaincu. En travaillant justement sur les matériaux sur place, que autant les Hollandais faisaient ce grand récit de la rencontre quand ils arrivent à Java, et c'était donc la grande narration des. Autant les archives donc malaises et javanaises se taisaient sur cette arrivée. Donc, ce qui faisait événement pour les uns n'en était pas un pour les autres. Donc, comment penser l'absence de présence, du grand récit, de silence assez vite. Je citerai un dernier dans lequel. Il dit, tout est affaire de cadrage. Si la caméra filme un gros plan, le face-à-face, le temps d'une audience entre Outhman, le capitaine donc de ces vaisseaux, et le régent de Banten, donc à Java, voilà l'histoire javanaise confinée dans le réduit du rapport à l'Europe. Et ça, c'est quelque chose justement qui est très central dans la réflexion. Mais si le réalisateur opte pour le plan panoramique et que surgissent en arrière-plan de la scène, un marchand chinois venu de Fujian, un maître du port gujarati, un ouléma persanophone, un émissaire de Soukhadana, alors cette histoire échappe déjà aux fictions europocentristes. Ce qui fait plancher pour le plan panoramique, ce sont bien sûr les documentations elles-mêmes, malaises, javanaises, aussi bien que hollandaises, portugaises et britanniques, qui fourmillent de dessiner. Mêlée d'identité d'objets chamarrés. Donc, pour nous, il s'agit l'enjeu est d'ouvrir la.
Merci beaucoup, Marianne, Sarah. Bonsoir à tout le monde. Je vais rebondir tout de suite sur ces citations de Romain Bertrand et cette idée de symétrie pour dire deux choses. D'une part, que du coup, cette symétrie qu'il souhaite. Pour le dire, ça peut paraître provocateur, mais ce n'est pas le but. Cette symétrie souhaitée n'existe pas, d'une part. Toutefois, l'objet de cette table ronde n'est pas du tout de dire que nous allons faire advenir cette symétrie, ni même que nous sommes les seuls à souhaiter cette symétrie. Et avant d'évoquer chacune nos cas particuliers, nos exemples particuliers, il nous paraissait intéressant de revenir sur un certain nombre de jalons qui ont cours depuis la fin des années 70, mais surtout depuis les années 80, dans le milieu académique, artistique, militant parfois, en Europe, mais aussi sur le continent africain et dans d'autres géographies. Car un peu brouillon dit comme ça, mais nous allons nous focaliser sur des géographies liées au continent africain, car c'est l'objet de nos recherches, mais bien entendu, en fait, cette symétrie souhaitable. Et souhaitable entre l'Europe, qui longtemps a été ordonnatrice d'un certain récit, et toutes les régions du monde. Et donc, je vous parlais de jalons. Donc, ces jalons existent depuis les années 80-90. Ils ont été des relais un certain nombre de corpus théoriques, Subaltern Studies, Postcolonial Studies, Cultural Studies, tout un tas de studies apparus dans le monde anglo-saxon, ingérés lentement dans le monde francophone, et là on parle le monde académique, mais ces corpus, j'ai pas envie de développer grand chose dessus, c'est des corpus qui sont complexes, qui supposent d'avoir déjà un large bagage théorique pour les aborder, Et du coup, ce ne sont pas des corpus accessibles à tout un chacun. Et donc des corpus qui ont nécessité très tôt des relais. Ces relais, ils sont passés par des expositions d'envergure, beaucoup en Europe, dans un premier temps. On voit passer souvent, dans une certaine historiographie, l'importance de l'exposition Magicien de la Terre, qui a eu lieu en 89 à Paris, entre le Centre Pompidou et la Grande Halle de la Villette. C'est une exposition sur laquelle on a beaucoup écrit, qui a été beaucoup critiquée depuis, et sur laquelle il n'y a au final plus grand intérêt à revenir sur la critique, même si la critique principale était qu'elle présentait des artistes de toute région du monde comme des magiciens, donc comme des créateurs spontanés, et elle avait sélectionné consciencieusement des artistes qui étaient pour la plupart autodidactes. Et l'un de ses grands défauts, c'était de donner l'impression, du coup, fausse, que dans toutes ces régions du monde, il n'y avait pas de formation académique, de formation type Beaux-Arts, d'artistes qui avaient une pensée, une réflexion esthétique, et que finalement, ils avaient donc finalement, en fait, un discours essentialiste malgré lui, qui posait ces artistes comme créateurs de beaux, simplement du fait de leur région lointaine d'habitation. Mais donc, au-delà de cette exposition, Magicien de la Terre, en 89, il y a eu toute une série d'autres expositions, se voulant expositions d'art dit africain, dit contemporain, notamment Africa Explorers, en 91, à New York, Seven Stories About Modern Art in Africa, à Londres, en 95, Africa Remix, qui est une exposition itinérante qui a circulé entre 2004 et 2007, mais surtout en 2001, The Short Century, qui était une exposition organisée par Okwien Wezar et qui se voulait une réponse au Magicien de la Terre, qui venait d'aborder des scènes plastiques sur une période large, allant des années 40 aux années 70-80, au sein du continent africain, avec une approche très politique, très liée aux luttes pour l'indépendance, et qui présentait des artistes comme acteurs conscients de ce qu'ils créaient et pourquoi ils le créaient. Donc ça, c'est le premier volet de jalon qu'il nous paraissait important d'évoquer, ces grandes expositions qui ont initié des expositions qui ont après eu lieu plus tard dans l'espace francophone notamment, et je pense que Sarah... sans dire... nombre d'expositions qui ont eu lieu ici, au musée du Quai Branly. Aux côtés de ces grandes expositions, il y a eu, à partir des années 90, la création, 80-90, la création d'un certain nombre de revues en langue anglaise ou française d'une grande importance. Je pense notamment, toujours en parlant de Okwien Wezar, à la revue NKA, qui a été fondée en 94, la revue Third Text, ou en France, la revue Noire, fondée par Jean-Loup Pivin. Donc ces éléments, ce ne sont que quelques jalons, et on ne va pas faire une longue introduction sur tous les enjeux théoriques et tous les supports qui permettent de diffuser ces enjeux théoriques, mais peut-être que ce qu'il faut retenir, la seule chose qu'il faut retenir de tous ces supports, c'est ce qui les anime, quel que soit leur positionnement. Quelque chose de commun à tout cela, c'est la critique, ou en tout cas la recherche d'une mise en récit différente de l'idée même d'Afrique, l'Afrique comme une construction intellectuelle plutôt que comme un continent pluriel, la remise en question également de l'idée d'art dit contemporain africain, l'idée d'art africain tout court d'ailleurs, et la question aussi de qui écrit ces histoires. Qui a l'autorité pour les écrire? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un partage d'autorité, dans le sens où les chercheurs qui ne sont pas issus de ces régions du monde sont tout à fait invités à écrire sur ces régions, à utiliser le matériau qu'ils ont sur place, à condition d'être en dialogue avec ces régions, avec les ressources qui sont sur place, avec les acteurs, quand ils existent encore, avec leurs descendants, et donc de chercher à créer des récits qui sont comme ça polyphoniques, polycentriques, très inclusif et qui accepte également de se constituer en mosaïque avec des voix divergentes où il n'y a jamais un sens unique de l'histoire ni une seule manière de raconter celle-ci. Voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir dans la discussion après sur quelques points de détail. Je vais m'arrêter sur cette introduction très générale et je vais laisser la parole à Sarah.
Alors moi, je vais vous parler de là où je suis, c'est-à-dire le musée du Quai Branly, où je travaille depuis 2003. Donc j'ai créé le service des archives. Et j'ai eu donc l'occasion de faire un certain nombre d'expositions. Et autour d'une problématique qui m'anime et qui me paraissait assez nécessaire d'aborder dans une institution comme la nôtre, qui est notamment la problématique de l'histoire du panafricanisme. Et je vous donnerai une définition assez simple, parce que c'est un concept un peu large, le panafricanisme. Donc, il y a une définition bien faite, assez réduite, que Mbokolo donne en 2004, qui est: le panafricanisme du XXe siècle a d'abord été une réponse à la spoliation matérielle, à l'exploitation économique, à la domination politique et culturelle et au racisme dont les Africains étaient partout victimes, aussi bien dans les territoires colonisés de l'Afrique que dans les métropoles coloniales et dans les anciennes colonies du Nouveau Monde, devenues des États indépendants et réputés démocratiques. Alors voilà, moi c'était un peu cet angle-là qui m'intéressait d'intégrer au musée. Et donc, j'ai eu trois stratégies, disons. Donc, il y a eu celle de faire des expositions, de me rendre compte que dans les collections de la médiathèque, on avait énormément de documents, d'ouvrages qui racontaient cette histoire du panafricanisme. Donc, de refaire émerger nos collections à travers des expositions, des discussions, des articles. Et ensuite, des nouvelles acquisitions au sein des archives. Donc c'était un petit peu mes trois manières de travailler sur ces questions-là. Alors donc je commencerai d'abord par les expositions. Donc en 2009, j'ai proposé au musée de faire une exposition sur la maison d'édition Présence africaine. Donc il y a une maison d'édition qui a été fondée par Alioune Diop en 1947 à Paris. Alioune Diop, un intellectuel sénégalais, et qui a été une maison d'édition, une revue, et qui a été aussi à l'origine du premier grand congrès des artistes et écrivains noirs en 1956, du second en 1959 à Rome, et du premier grand festival panafricain à Dakar en 1966. Et donc l'exposition, et qui est une grande revue panafricaine qui donnait la parole à tous les écrivains, intellectuels, militants, francophone, anglophone ou lusophone. Donc là, je peux vous montrer un petit peu des images. Je ne sais pas comment on déplace. Voilà, donc c'est donc cette exposition a été présentée voilà, sous cette forme-là. C'était l'occasion de faire... voilà, je vous présente quelques images un petit peu. Donc là, c'était ce qui précédait la création de Présence africaine, tous les grands mouvements intellectuels des années 20-30 en France et aux États-Unis et dans la Caraïbe. Là, vous voyez Claude Mackay, Zora Neale Hurston. La négro-anthologie de Nancy Cunard qu'on a dans nos collections, qui a été ensuite le sujet d'une seconde exposition. Donc, ce n'était pas des expositions d'objets, hein, c'était vraiment des expositions d'archives, d'ouvrages et de refaire émerger voilà, toute une histoire intellectuelle qui, d'une certaine manière, donc on parlait tout à l'heure des post-colonial studies, une histoire qui avait été un petit peu oubliée par tous ces mouvements en fait, sur la prise de parole des intellectuels colonisés et dominés dès les années 30, et que cette prise de parole a existé, qu'elle a été finalement assez visible, d'une certaine manière. Et l'idée, c'était voilà, de vraiment refaire une sorte de généalogie de toute cette histoire intellectuelle et politique. Donc là, et Présence africaine pouvait être un peu, c'est 47, c'est le milieu du siècle, pouvait être du XXe siècle, vraiment un sujet tout à fait intéressant. Donc là, vous avez quelques images de l'exposition. Voilà, Présence africaine, on ne le sait pas, mais a été le producteur et initiateur du film Les statues meurtres aussi, de René et Chris Marker, suite à un numéro de 1951 consacré, c'est le terme de l'époque, à l'art nègre. Suite à ce numéro, c'est Alioune Diop avait demandé à Marker et René de faire ce film. Donc un film mythique qu'on associe peu aussi à cette histoire-là. Ensuite, donc, des choses sur le premier grand congrès. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez que l'affiche du premier congrès des artistes et des écrivains noirs a été réalisée par Picasso. Donc là aussi, c'est de montrer que les liens entre les intellectuels et les artistes occidentaux et tous ces mouvements émergents existaient. Donc voilà, le grand congrès, là, et puis le premier grand festival des arts nègres de Dakar. Alors, ce qui a été tout à fait intéressant pour moi, c'est que c'est une exposition donc, qui a été présentée en 2009 ici et qui ensuite a été présentée à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sur le campus. Donc, c'était vraiment là où les études. Enfin, c'était une exposition qui a été vraiment vue par tous les étudiants sénégalais, ce qui était tout à fait important pour moi, sachant qu'Alioune Diop, donc le fondateur, était sénégalais. Et ça a été. Donc, là, vous voyez une autre scénographie. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une bibliothèque où il n'y a quand même pas beaucoup de place et que c'est les étudiants squattaient vraiment l'exposition, travaillaient au milieu de tout ça, au milieu un peu de tous ces. De toute l'histoire qui pouvait les porter. Donc voilà, là, c'est mes collègues de l'université, de la bibliothèque, avec qui j'ai travaillé, avec qui on a fait tout un travail pédagogique avec les étudiants. Il y a eu énormément d'élèves de l'art qui étaient affrétés pour venir visiter l'exposition de collège, de lycée. À Dakar, on a organisé un colloque. Ensuite, la deuxième exposition qui était importante pour moi, ça a été donc donc j'avais pu découvrir qu'on avait la Négro-anthologie de Nancy Cunard, donc qui est un ouvrage que vous pouvez voir là qui est derrière. Enfin, c'est le reprint, donc, édité en 1934 par Nancy Cunard, qui était un peu. Ben, on connaît cette photo très célèbre. On connaissait surtout cette photo de Man Ray, l'égérie, un peu des surréalistes. Et qui, entre 31 et 34, va réaliser cette anthologie de 800 pages assez monumentale. Et ce qui était tout à fait intéressant, la particularité de cette anthologie, c'est que les trois quarts, donc c'est une anthologie antiraciste, anticolonialiste, une sorte de grand montage, un grand documentaire sur les mondes noirs à l'époque, et qui va donner la parole aux concernés. Les trois quarts des auteurs sont antillais, africains, africains-américains. Donc ça va être un mélange de textes, il va y avoir un petit peu de poésie, mais c'est surtout voilà, des textes et des grands montages, des collages de photos, d'extraits d'articles. Enfin, c'est un très bel objet. Et c'était, voilà, pour moi, c'est un grand texte, c'est un des premiers grands textes panafricains du XXe siècle, hein, vraiment qui donne la parole à tous et qui a été reconnu comme tel par les militants et les intellectuels de l'époque qui se demandaient ce que cette femme allait faire. Et c'est un objet qui est encore aujourd'hui assez extraordinaire quand on travaille sur la biographie des auteurs. Donc l'exposition a eu lieu en 2013, je crois, ici. Et donc là, ici, ce qui était important pour moi, pour cette parole panafricaine, hein, voire c'était pas juste de dire ce que je viens de vous dire, les trois quarts des auteurs sont africains, américains, antillais et africains, c'est aussi de raconter, de savoir qui sont ces auteurs. Et là, j'ai vraiment eu une chance inouïe, le musée a accepté que l'exposition, en gros, c'était le sommaire. Et là, vous voyez sur le côté, c'était vraiment important de présenter la biographie de chacun des auteurs. Donc c'était pour moi vraiment une nécessité de faire vivre cette anthologie à travers la biographie des auteurs, pour pas que ce soit anecdotique sur la question. Et donc c'était vraiment le cœur de l'exposition. Ensuite, la troisième exposition que j'ai réalisée ici avec Dominique Malaquais et Cédric Vincent, c'était une exposition sur le festival de Dakar de 66 que j'avais déjà évoqué dans l'exposition Présence africaine. Mais là, c'était à partir du travail de Dominique Malaquais et Cédric Vincent qui ont fondé une sorte de groupe de recherche, Panafest, qui a décidé de collecter en fait toutes les archives des quatre grands festivals qui ont lieu sur le continent africain au XXe siècle, donc celui de Dakar en 66, celui de 69 à Alger, celui de 74 à Kinshasa et de 77 à Lagos. Donc là, nous, on s'était un petit peu orienté sur le festival de 66. C'était donc en 2016 aussi pour le cinquantenaire. Et là, ce qui est intéressant dans ces archives, là, c'était aussi de ne pas se baser sur les archives institutionnelles. On en a un certain nombre ici qui existent sur ces festivals, mais sur les archives créées sur le moment pour le festival, c'est-à-dire les brochures, tous les petits catalogues, etc., qu'on trouve rarement dans des fonds d'archives publics. Vraiment, ils collectent les disques, les affiches, les petits flyers, etc. C'est ce qu'on a essayé de montrer. Et au cours de cette exposition, on a notamment montré aussi, parce que l'autre objet de l'exposition, c'était de montrer que ce festival avait eu lieu dans un contexte politique très particulier, celui de la guerre froide. Et l'exposition était surtout centrée autour de deux films, un film américain sur le festival et un film russe. Donc c'était de confronter des regards, des manières de parler. Donc là, vous avez en couleur le film russe et en noir et blanc le film américain. Et la dernière exposition en date, c'est celle, ça date de 2008, c'était une exposition sur, alors là, c'était, j'étais pas sûre que le musée accepte, j'avoue, sur un chanteur, un grand chanteur africain-américain, Paul Robeson, donc qui est connu pour, qui était un acteur aussi, c'est le premier grand acteur noir, un peu hollywoodien, très connu, mais qui est très, et aussi acteur de cinéma et de théâtre, mais qui très tôt a écrit sur ce que c'est d'être un acteur noir. Qui a réfléchi à sa condition d'acteur noir dès les années 30 et qui va avoir une espèce de combat un peu internationaliste. Il va s'engager. Et l'aspect panafricain de Robeson a été donc, il a participé à la création du Council on African Affairs avec Du Bois, qui va être l'engagement des Africains-Américains pour la cause des indépendances africaines. Donc là, c'était aussi une autre parole panafricaine, avec plus large. Donc là, voilà, c'est des affiches de cinéma. Voilà. C'était la section qui nous intéresse pour ce soir. C'était plutôt cette section sur les non-alignés. Et c'était notamment aussi l'occasion d'évoquer sa femme, Islanda Robeson, qui est moins connue, mais qui en 1936, donc c'était une africaine-américaine, a fait un terrain. En Afrique du Sud et qui est revenu avec un journal au jour le jour tout à fait passionnant. Et là aussi, c'est un texte que je vais d'ailleurs rééditer avec un éditeur tout à fait intéressant parce que c'est la vision d'une africaine-américaine formée à l'anthropologie par Malinowski à Londres. Et ça va être son regard sur l'Afrique et ce qui est tout à fait intéressant dans son journal, c'est qu'elle s'intéresse aux femmes, qu'elle s'intéresse aux ouvriers. Et qu'elle raconte un petit peu vraiment, voilà, c'est un regard avec son regard d'africaine-américaine militante, donc une femme noire sur un terrain, enfin voilà, ça raconte aussi beaucoup de choses, tout à fait passionnante. Donc voilà un peu là, c'était l'approche panafricaine à travers des expositions, et je pense que c'est tout à fait intéressant que le musée m'ait laissé aussi parler de ces choses-là. C'était pas évident dans un musée comme le nôtre, avec toutes les polémiques et les discours. Sur le Quai Branly. Et donc à l'occasion de cette exposition, donc je rentrerai dans le deuxième thème, c'était de refaire émerger l'importance de nos collections, des collections de la médiathèque. Donc c'est une médiathèque, enfin le fonds existe depuis en gros le avec le MET, le musée d'ethnographie du Trocadéro, donc fin du 19e, donc on a vraiment des fonds très très importants. Et ce qui a été tout à fait fou, c'est de me rendre compte que, en fait, le moment un peu important, on sait l'importance de la création du Musée de l'Homme, de toute l'équipe d'intellectuels qui ont participé à ce nouveau projet, et notamment à Léris, Georges-Henri Rivière, etc., qui ont fait en sorte que la bibliothèque soit... Les budgets, en fait, à cette époque, n'étaient pas pour les acquisitions d'objets, mais pour les acquisitions d'ouvrages. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la négro-anthologie, donc, qui date de 1934, est rentrée dans nos collections, en 1934. On a aussi la revue du Monde Noir des Sœurs Nardal, qui est une grande revue très, tout à fait intéressante, publiée entre 1931 et donc les Sœurs Nardal étaient deux femmes, deux sœurs martiniquaises qui ont un salon à Paris qui ont permis de rassembler tous les acteurs de la négritude francophone et aux États-Unis. Et qui ont créé cette revue bilingue. Donc ça, on a aussi, c'est en 1931 que ces collections sont rentrées au musée. Il y a par exemple la revue Crisis, la revue créée par Du Bois. Ça a été l'occasion de faire émerger, de constater la richesse de nos collections et de la valoriser. Et de voir que finalement, au fur et à mesure, les gens qui étaient dans ces institutions étaient... intéressés, étaient dans leur temps, quoi, et s'intéressaient à la parole des dominés, d'une certaine manière. Et je ne sais pas, il y a d'autres choses concernant les archives, par exemple, sur les festivals. Sur le festival de 66 et de 69, on a énormément d'archives sur ces festivals, car Michel, il y a eu deux grandes expos d'art ancien dans ces deux festivals, dans lesquels le musée de l'homme à l'époque et le Mao de l'époque avaient prêté. Et donc, ils sont allés dans ces festivals et qui ont rapporté énormément de documents aussi. Ça, ça a été le deuxième point. Et l'autre chose, là, c'est Aline, ça a été également la collaboration qu'on a pu avoir avec un LABEX coordonné par Zaya Rahmani, qui essaie de faire une sorte de grande cartographie de toutes les revues. Je peux peut-être.
Oui, donc un programme qui s'appelle Global Art and Cultural Periodicals, qui est un programme de recherche qui a été initié par Zaya Rahmani à l'Institut national d'histoire de l'art. Zaya Rahmani, qui est en charge de ce qui s'appelait autrefois art et architecture de la mondialisation et aujourd'hui appelé histoire de l'art mondialisé. Donc une étiquette un petit peu omnivore pour dire tout ce qui n'est pas l'Europe et qu'il faudrait rattraper en termes de savoir. Et Zaya Rahmani porte des projets assez importants sur ces aires géographiques et sur ces sujets. Et du coup, ce programme de recherche cherchait à recenser, donc, comme Sarah l'a dit, toutes les revues culturelles politique, vectrice de subversion claire ou dissimulée dans des territoires qui ont été à un moment en situation de contact, pas forcément colonial, mais en tout cas dominé, d'une part, ou des territoires dont on a soit mis de côté l'histoire, soit trop peu... soit qu'ils aient été trop peu étudiés. Et du coup, on a recensé à l'époque, parce que c'est toujours en cours et je n'ai pas les chiffres, plusieurs centaines de revues issues des continents africains, américains du Nord et du Sud, asiatiques, depuis l'Abeille haïtienne, qui est une revue fondée à Haïti en 1804, qui est la première revue littéraire et politique de la République d'Haïti indépendante. Et ça a donné lieu à une exposition sous forme d'installation vidéo qui s'appelait Sismographie des luttes, qui a été présentée à l'INHA fin 2017 et qui depuis a circulé à Dakar, à Rabat, à Beyrouth, à New York.
Et qui par rapport au Prince en novembre.
Ouais.
Et je reviens là-dessus pour dire que en fait, Aline est venue beaucoup travailler sur les collections de la médiathèque et à faire émerger aussi des tas de revues qui étaient peut-être d'une certaine manière invisibles, enfin visibles et invisibles. Ça, c'était le deuxième point sur aussi l'enjeu du travail que je souhaite faire ici, c'est refaire émerger aussi tous les fonds existants. Et le dernier point, c'est les nouvelles acquisitions. Depuis que je suis là, enfin, au sein des archives enfin, qui me tiennent et de la médiathèque de manière plus générale. Par exemple, on a eu l'occasion d'acquérir un manuscrit d'Aimé Césaire, la première version du discours sur le colonialisme. L'ouvrage Légitime Défense, un premier ouvrage publié en 1932 par des militants communistes surréalistes martiniquais. Toutes les publications de Nancy Cunard et les deux dernières grosses acquisitions, ce sont les archives et la collection complète de la revue Bingo, qui était une revue fondée à Dakar en 1953, une espèce de revue culturelle qui se voulait panafricaine, une revue culturelle. Donc on a à la fois la collection complète et les archives photographiques de cette revue. Donc là, c'est tout à fait intéressant pour d'histoire, c'est une sorte de bande de données d'images d'une revue plutôt populaire, hein, pas particulièrement intellectuelle. Et ensuite, la dernière grande acquisition, c'est toutes les archives collectées par le collectif dont je vous ai parlé de Panafest Archive sur les quatre grands festivals. Et donc là, voilà, c'est un petit peu aussi une. Après, je pense que un service d'archives, c'est aussi lié à des personnes, des gens, des personnalités, des intérêts. Et voilà, moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas, le moment où je suis là, c'est. Là, c'est plus l'Afrique, mais ce serait bien que ça s'élargisse à d'autres continents. Mais de rassembler le plus de pas être dans une, juste dans une collecte d'archives, d'anthropologie, d'ethnologues, parce qu'il y a plein d'institutions à Paris et en France qui s'en chargent, et d'essayer d'ouvrir les choses à une histoire plus contemporaine et plus où les justement les la parole des. Ce qui est formidable, oui, il y a les vidéos. Toutes les, il y a eu énormément dans Panafest. Donc vous verrez, il va y avoir bientôt un webdoc où l'équipe de Panafest a fait énormément d'entretiens. Et on a eu, ils nous donnent également les rushs de tous ces entretiens. Voilà, voilà pour faire un peu, vous faire part un petit peu de mon action au Quai Branly sur ces questions-là, sur essayer de refaire.
Il y a des ponts et des points de contact entre nos recherches. Tu viens de mentionner Jomo Kenyatta. Sur une histoire des arts, enfin, des arts entre autres, qui se passe à Nairobi, dont, enfin, on va dire, c'est le point central, c'est Nairobi, mais au Kenya, mais qui va. Large. Et ce qui est intéressant, c'est que donc l'Afrique de l'Est a souvent été appréhendée par les historiens de des aires artistiques. On a beaucoup plus quand on pense au Kenya, etc. Toutes ces zones, c'est la faune, la flore, etc. Les safaris, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'en fait, quand on se plonge dans les archives justement et qu'on va sur place, on trouve des histoires, des corpus assez extraordinaires d'objets, d'archives et des histoires passionnantes qui justement viennent contrecarrer cette vision, encore une fois, recentrée, qui désigne certaines zones comme étant riches d'histoire, dignes d'intérêt, etc. et d'autres auxquelles on, simplement parce qu'on n'y est pas allé, on n'a pas fait trop de recherches, on dit que c'est un désert culturel. Encore une fois, la question de qui parle, d'où il parle, etc., toutes ces questions d'autorité de la voix. Saillante quand on commence à travailler sur ces questions. Et d'un homme assez complexe qui s'appelle Joseph Murumbi, qui est né en 1911 au Kenya, dans une petite ville qui s'appelle Eldama Ravine, qui est décédé en 90. Et donc, c'est quelqu'un qui a traversé le XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un aussi qui est à cheval entre plusieurs géographies. Son père était. Un jeune homme qui est arrivé au Kenya à la fin du 19e siècle de Goa, donc cet ancien comptoir portugais, qui avait été engagé à Bombay à la fin du siècle, du 19e siècle, pour venir travailler donc, dans cet espace britannique. Sa mère était une jeune femme Maasai, donc c'est son cas en fait, parce que donc Murumbi va avoir une carrière politique en tant que donc dans le paysage politique kényan, cette figure un peu aux héritages multiples, enfin, quelqu'un qui est arrivé aussi haut aux échelons de l'État, je vais vous expliquer, c'est assez rare. J'essaie d'écrire l'histoire de sa collection. Pas uniquement une collection d'objets. On voit une statuette. Et c'est quelque chose à laquelle j'ai mis longtemps quelque part à comprendre, c'est qu'il ne fallait pas que je me contente, entre guillemets, ou que je me focalise uniquement sur la collection d'objets, mais qu'il fallait voir son entreprise, ses gestes de manière plus large. Et en m'intéressant, en essayant de voir comment, parce que donc il avait, comment dire, donc il a collecté à la fois, et là aussi, donc la collection d'art est assez hétérogène, il y a des artefacts, donc je ne vais pas utiliser l'adjectif ethnographique, enfin, du coup, je l'ai utilisé, mais en Kenya, ils parlent d'artefacts, d'objets ethnographiques, je préfère parler d'artefacts. Donc il y a à la fois ces objets kényans, mais pas seulement des aires, de l'ère géographique est-africaine, ce qui est assez intéressant parce qu'il ne va pas se focaliser uniquement sur le lieu, son lieu de naissance en premier lieu. Il y a aussi des objets qui proviennent du Congo, d'Afrique de l'Ouest, et donc il pensait sa collection comme étant une collection panafricaine. Donc on arrive au point de contact. Et au-delà de cette collection d'objets, d'artefacts, il a aussi collectionné des travaux d'artistes modernes de l'époque, donc contemporains à l'époque. Mais qui est aujourd'hui conservé aux Archives nationales du Kenya, je vais y revenir. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui était très passionné, qui a collecté aussi énormément d'ouvrages, je vais y revenir après, qui, de par sa trajectoire politique, a aussi fait en sorte de garder tous ses papiers politiques, toutes les... voyagé énormément, donc il a participé à de nombreuses conférences internationales, et donc dans, il a légué tout ça, enfin il n'a pas légué, il a vendu à l'État kényan à la fin des années 70 l'ensemble, donc la collection, les archives et sa bibliothèque. Et donc ma grande question maintenant, c'est comment écrire cette histoire de cet ensemble qui est extrêmement riche. Mais je pense qu'il faut penser cet ensemble ensemble, puisque il a été formé de manière organique. Le rez-de-chaussée des Archives nationales, qu'il avait lui-même contribué à fonder lorsqu'il devient vice-président du Kenya. Ans après l'indépendance du pays, et là il se disait déjà c'est très tard, on est indépendant, on est Kenya indépendant depuis 3 ans, et depuis 3 ans on n'a rien fait, les documents sont partis, les Britanniques ont emporté, et donc là on se retrouve avec vraiment un gros problème, il faut agir. Et donc il va comment dire, mener cette action pour la création de cette institution, avec l'idée aussi, et c'est la même chose pour les objets, qu'il fallait garder les documents et les objets sur place pour permettre à la nouvelle génération d'avoir accès à ces documents, à ces objets dans le but d'une écriture. Donc on revient un peu à cette histoire de parts égales, d'une écriture qui aurait pu être faite sur place à partir de documents qui s'est trouvé sur place. Permettre aux étudiants, à la nouvelle génération, de ne pas devoir à chaque fois s'expatrier pour aller à Paris, Londres, etc., pour avoir accès aux archives liées à leurs propres histoires. Donc, reste de quelque part de l'acte qui est lié à cet acte d'écriture, et d'une écriture qui peut raconter une autre histoire que celle que le colonisateur a. Galerie d'art qui va ouvrir en 73 à Nairobi, un moment où c'était difficile pour les artistes d'exposer. Donc l'idée était d'avoir un lieu où les artistes kényans et pas que kényans puissent exposer et vendre leur. La côte Swahili. Donc voilà, je m'intéresse à ce geste. Et comme vous voyez, là, c'est un entretien de 73. Avec tous les débats sur les restitutions, etc. important de quelque part de résumer des histoires qui sont méconnues, etc. On a beaucoup de fantasmes aussi sur justement, ben, en Afrique, il n'y aurait rien. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, mais il y a aussi des choses qui sont là et qu'il faut connaître. Des gestes, justement, de personnes assez pionniers à l'époque. Invité plusieurs fois dans les années 70 et plus tard encore. Là aussi, il y a des connexions est-ouest qui sont faites et qui sont assez. On a l'impression qu'elles sont rares, mais c'est parce qu'on ne les connaît pas et donc il faut revenir. Entre des espaces qui sont bah, sur le continent. Intéressant ce que je disais, en fait, je n'ai pas vraiment détaillé sa biographie parce que, et c'est tout l'enjeu en fait, d'écrire l'histoire de cette collection, ou plutôt de cet ensemble, c'est que Murumbi a eu plusieurs vies à la fois dans cette longue vie qu'il a eue. Il a été secrétaire de la première organisation politique nationale au Kenya, la Kenya African Union, en 1952. Il devient donc secrétaire de cette organisation politique au moment où il y a Jomo Kenyatta et toute la tête en fait, pensante de cette organisation est emprisonnée. La période aussi de l'état d'urgence et Murumbi est très présent dans toute la partie du procès qui est intenté par les Britanniques à Jomo Kenyatta. La tête pensante derrière l'insurrection Mau Mau. Et donc Murumbi va être un peu l'homme de l'ombre qui va travailler de concert avec l'équipe légale. Et là aussi, il y a une histoire fantastique au niveau de cette donc de l'équipe qui va défendre Jomo Kenyatta parce que il y a des personnes grand avocat indien qui est dépêché par Nehru, c'est le gouvernement indien qui va payer donc les frais légaux pour que cet avocat vienne et défende donc Jomo Kenyatta. Donc on voit aussi cette convergence de lutte entre l'Inde et l'Afrique de l'Est. Il y a un avocat de Jamaïque qui était passé par Londres. Il y a un Nigérian, il y a des avocats d'origine kényane mais d'origine indienne. Et donc c'est difficile aujourd'hui s'imaginer cette palette donc de personnes qui travaillent ensemble pour la libération, en tout cas pour défendre Jomo Kenyatta. Et il faut penser aussi qu'à cette époque le Kenya il y a cette color bar, donc un peu comme en Afrique du Sud, c'est ségrégué. Et donc le fait que excusez-moi, j'ai oublié un avocat aussi britannique de communiste, et c'est le seul blanc. Et donc c'est le fait que cette équipe d'origine différente pose problème parce qu'ils ne peuvent pas aller au même endroit parce que la ville est ségrégée. Donc il y a des histoires extrêmement intéressantes qu'on peut découvrir et qui, pour moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est cette articulation entre enjeux politiques, combats politiques et j'essaye de penser ensemble. Et ce qui est intéressant, juste pour terminer, j'avais beaucoup d'autres choses à dire, c'est que. La trajectoire de cet ensemble de manière à éviter une certaine exceptionnalisme quand on. En Europe, on a toujours un. l'ombre, en fait, à tout ce qui a un tissu beaucoup plus large de personnes qui pouvaient travailler plus ou moins de la même manière, à la même époque, à d'autres endroits. Et donc, je veux éviter un peu cette idée, sortir quelqu'un comme tirer de l'ombre. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre ce que Murumbi a fait à sa période, mais dans un cadre beaucoup plus élargi. Par exemple, aperçu en étant donc à Nairobi cet été grâce au musée, donc dans le cadre de cette année postdoctorale, qu'il y avait dans les mêmes périodes, début 70, l'Institut des études africaines à Nairobi, de concert avec le musée national, avait lancé un projet qui s'appelait Material Cultural Project. Aller chercher en fait dans différentes communautés un peu rendre compte de ce qui était parti aussi du fait d'une certaine modernité, on est dans les sortes de sauvegarde, il fallait faire vite parce que les cultures au contact avec la modernité allaient disparaître, etc. Donc il y a ces collections qui se créent, et donc ça c'est il faut, voilà, dans ma focale c'est Murumbi, mais partent avec d'autres agendas, d'autres réseaux. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais peut-être pour terminer, parce qu'on s'intéresse aussi beaucoup, c'est un peu l'enjeu de le point focal de cette rencontre, parler de la méthodologie, comment on écrit ces histoires. Donc, et que, il me semble qu'au-delà, effectivement, de la nécessité de travailler sur les archives, et si je peux avoir encore... dans les archives et sur place, mais il y a aussi peut-être, enfin, sans peut-être, je pense personnellement que si on veut essayer d'écrire autrement, rapport à ces archives, à ces matériaux, et il faut que dans l'écriture de ces histoires, on soit aussi présente, on fasse pas. On les fabrique en fait ces histoires par les archives. Même de l'écriture de.
Alors, je ne sais pas, on va passer sur une période un peu plus contemporaine et non plus sur des histoires d'exposition ou d'acteurs culturels, mais sur des œuvres, l'œuvre en général d'un peintre que vous connaissez certainement, Chéri Samba, qui est un peintre originaire de République démocratique du Congo. Mais s'il fallait que je fasse une transition peut-être avec ce dont vient de parler Marianne, quand elle parlait de focus et de la manière dont on nous transmet des histoires ou seulement certains éléments d'histoire. Vous connaissez certainement Chéri Samba comme peintre pour l'avoir vu dans quelques expositions consacrées à l'art congolais en général ou peut-être à Chéri Samba il y a quelques années en France ou en ayant lu quelques interviews de Chéri Samba. C'est un artiste, un peintre très connu. dont on connaît finalement très peu l'œuvre dans ce qu'elle renferme d'autre que juste une peinture assez chatoyante, esthétiquement proche des canons de la peinture populaire telle qu'elle est définie au Congo, Zaïre à l'époque, dans les années 70-80. Et aujourd'hui, quand on cherche des écrits sur Cheri Samba, même de manière très contemporaine, des écrits qui ne consisteraient pas juste en des interviews très sympathiques avec l'artiste ou des propos des galeristes qui le représentent en France et en Europe et qui le décrivent comme un personnage très joyeux, très sympathique, très rieur, truculent parfois, tout un bestiaire d'adjectifs qui le rendent toujours éminemment très sympathique, je ne le connais pas personnellement, mais qui tendent en tout cas à gommer une large part de son œuvre, que l'on pourrait résumer autant que ses discours le disent, comme une œuvre qui repose sur le narcissisme. Cheri Samba s'auto-représente, se met en scène dans la quasi-totalité de ses tableaux depuis le début de sa carrière, sauf que ce narcissisme a un sens. Il a un sens de contre-récit, de remise en récit, de recentrement à la fois de sa place en tant qu'artiste dans le monde, dans le monde en général, partout où il est exposé, chez lui, à Kinshasa. C'est quelque chose qu'il fait, je vous le disais, dans quasiment toutes ses peintures et depuis très tôt. Et il me semblait intéressant de faire ce décrochage en prenant cet exemple particulier pour voir un petit peu comment il opère à ça et pourquoi c'est intéressant de lire en Cheri Samba, dans un certain nombre de ses tableaux, cette représentation lui-même comme une stratégie et donc de lire cette pratique de la représentation de soi en narcissisme stratégique. Pour commencer, je voudrais vous présenter ce triptyque que Samba a peint en 97. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je m'éloigne du micro. Sauf que ce n'est pas pratique pour montrer. Donc, ce triptyque s'appelle Quel avenir pour notre art? C'est un triptyque que Samba a peint entre l'année 97 et janvier 98, quand il séjournait à Paris. Et c'est un triptyque qu'il a composé suite une exposition personnelle qui lui était consacrée au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, au Palais de la Porte Dorée, donc l'ancêtre du musée du Quai Branly. Un musée qu'il a composé, pardon, un triptyque qu'il a composé d'une manière thématique un peu particulière, comme il peut avoir l'habitude de le faire dans ses œuvres, puisque dans son œuvre, et j'y reviendrai, il se commente souvent, il commente son passé récent ou plus lointain. Et à l'époque de cette exposition, il avait, je reviendrai sur le détail du triptyque après, il avait été interviewé par une journaliste du Monde qui lui posait la question de savoir si c'était bien d'être exposé à Paris, qu'est-ce que ça faisait, tout ça, de voyager. Et il avait répondu de manière un peu provocatrice, ou en tout cas c'est ce que retient la journaliste, que ses propos sont provocateurs et qu'il joue la provocation. Il avait répondu donc. Le Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, c'est très bien, mais pourquoi je ne suis pas invitée au Musée d'art moderne? Le Musée d'art moderne serait-il raciste? Dans un texte important publié en 2002 dans la revue Les Temps modernes, Hassan Moussa, artiste d'origine soudanienne, mais origine qu'il ne met en avant que quand il s'agit de réfléchir à l'identité de la création issue du continent africain, souligne avec pas mal de justesse le fait que cette question, le musée d'art moderne serait-il raciste, est naïve, mais faussement naïve, et qu'en tout cas, il est très pratique à la journaliste de présenter ses propos comme naïfs. Dans ce triptyque, Quel avenir pour notre art? Cheri Samba se représente sur le panneau de gauche aux côtés d'un Picasso inspiré par des objets d'art classique africain, en l'occurrence ici des masques, au centre, aux côtés de Picasso, en marche vers le musée d'art moderne, portant tous deux une toile sous le bras avec une représentation graphique inspirée d'un masque africain. Et sur le panneau de droite, vous retrouvez Cheri Samba au pied du centre Pompidou. Sa toile n'a pas été acceptée. Je ne sais pas si on voit tout bien. Donc ici, vous avez ce panneau où il est aux côtés de Picasso, ce panneau où il marche vers le musée d'art moderne, et ce panneau au pied du centre Pompidou, où donc l'œuvre de Chéri Samba n'a pas été acceptée, où vous avez des bulles de dialogue le long des murs, où vous avez des propos à la fois d'un passant, celui qui a cette veste un peu en treillis, qui pose la question « mais pourquoi son œuvre n'a pas été acceptée ? Il n'avait pas un masque exactement comme Picasso ?» Et à l'intérieur, une autre bulle de dialogue qui sort du musée et qui dit « bravo l'occidental, bravo le cubisme, notre musée est pour vous. » À gauche, vous avez un long texte que je ne vais pas lire intégralement, mais qui reprend cette idée et qui développe cette idée, ce questionnement de l'absence d'artistes d'origine de pays africains au Centre Pompidou et le problème de les exposer à l'époque au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, qui est héritier du Musée des beaux-arts de la France d'Outre-mer et avant ça du Musée des colonies. Et avant ça, en partie, du musée d'ethnographie, donc un musée qui est très chargé, tous ces musées étant les ancêtres du musée du Quai Branly aujourd'hui, mais donc un musée très chargé en histoire, qui a des collections principalement d'art classique, et qui sont vouées à l'ethnographie, à l'anthropologie. Et donc Chéri Samba pose cette question, réécrit cette question, le musée d'art moderne est-il raciste, et pose cette question de la place... des artistes originaires du continent africain, non seulement dans les musées, faut-il les mettre dans un musée dédié à l'Afrique, à l'Océanie, au monde extra-occidental, ou faut-il les mettre dans un musée d'art moderne et contemporain, quand leur date de création est moderne ou contemporaine. Ça, c'est une première chose. Mais il pose aussi la question de la place des artistes originaires de ce continent africain au sein d'un récit plus large de l'histoire de l'art, et récit qui est le plus souvent formé, écrit depuis l'Europe. Alors, avant de développer cette idée de place, j'y reviendrai après. Avant de développer cette idée de place de ces arts contemporains, issus du continent africain, dans le récit, un récit global de l'histoire des arts, il me semble intéressant de revenir un petit peu, très rapidement, sur la biographie de Chéri Samba, sur quelques aspects de sa biographie en tout cas, et sur quelques aspects de sa pratique, pour bien saisir ce qui s'y joue, d'une part en termes de représentation, de choix graphiques, et d'autre part de comprendre ce cheminement dans ce que je nommais, en guise d'introduction, comme un narcissisme stratégique. Vous avez pu voir dans ce triptyque énormément de textes, et je vous ai dit cette mise en scène de soi. Il faut savoir que cette mise en scène de soi, l'usage du texte, ce sont des choses qui sont systématiques chez Chéri Samba, et que, de manière générale, ce texte lui sert à, dans tous ces tableaux qu'il concerne, cette place de l'art dans un récit plus global, ou dans d'autres tableaux où il s'attache à décrire des réalités sociales, politiques, économiques, liées à son pays d'origine ou à des régions plus décentrées du monde. Il utilise le texte, avant toute chose, pour brouiller des pistes, pour se protéger et pour brouiller des pistes. Pour brouiller des pistes, parce que ce texte lui permet de contrôler ce qu'on voit dans sa peinture, lui permet de dire ce qu'il faut y lire, lui permettre d'annuler une forme de polysémie visuelle qu'on pourrait y trouver, ça c'est une première chose. Il l'utilise aussi pour se protéger des discours écrits sur ses peintures. Il l'a beaucoup dit en interview, et ce depuis le tout début de sa pratique, pour se protéger à la fois, ça c'est anecdotique, de voisins qui pourraient l'attaquer parce qu'il a représenté des personnages qui leur ressemblent trop, d'où l'idée de toujours dire qu'il s'agit de lui, de toujours dire de qui il s'agit, et cette idée de s'auto-représenter, mais il utilise ça aussi pour se protéger dans le sens où il veut garder la mainmise sur le récit de lui, sur le récit de son œuvre, et faire barrage, on y reviendra, aux universitaires, aux commissaires d'exposition, aux collectionneurs, dans une certaine mesure, qui, dans la mise en récit d'une histoire parfois trop normative, pourrait aller chercher, pourrait aller vouloir gratter dans ses œuvres des choses qu'il ne veut pas y voir et qu'il n'a pas voulu représenter, pourrait vouloir aller chercher comme ça pour faire plier ses œuvres au récit qu'il cherche depuis l'extérieur à écrire. Je vous le disais, cet usage de l'écriture pardon, se confond avec l'origine de la pratique plastique de Samba dans le Congo des années 70, qui s'appelle alors Zaïre, et à une époque où il ne signe pas encore Chéri Samba, mais simplement Samba. En fait, Chéri Samba, il va commencer par la bande dessinée, avant de faire des gouaches de petits formats, puis les grands formats qu'on les connaît aujourd'hui. Et il va commencer par dessiner dans des bandes dessinées des strips de commandes sur des scénarios qui ne sont pas les siens. Dans des revues de jeunesse, très encadrées par le Parti Unique à l'époque. Donc on est dans le Zaïre de Mobutu. Et le pays se nomme Zaïre, pour rappel, parce que je vais utiliser Zaïre et Congo parfois de manière un peu par aller-retour, sans toujours préciser. Et donc le pays s'appelle Zaïre de 71 à 97. Et donc, dans ce Zaïre des années 70, vous avez quelques revues de bandes dessinées qui circulent, un peu sur le mode du fanzine, mais il serait difficile de les appeler fanzines dans le sens où elles sont très peu subversives, en tout cas très contrôlées par la censure. Mais vous avez tout un langage graphique, un langage esthétique et un arrière-plan esthétique qui se développe, très inspiré du Tintin d'Hergé, d'ailleurs, et de la BD occidentale, très inspiré pour mieux la détourner, qui se développe dans ces années 70 et qui circule dans des revues, dont notamment la revue de bande dessinée Jeune pour Jeune. Cette revue, elle est diffusée à Kinshasa, la capitale du Zaïre. Mais pas seulement, aussi dans les régions alentours. Et Chéri Samba, Samba seulement à l'époque, qui ne vit pas encore à Kinshasa, a accès à ses numéros alors qu'il est jeune et s'amuse de copier quelques-unes des bandes dessinées pour les vendre à la sortie de l'école. C'est comme ça qu'il entraîne son trait et c'est comme ça qu'il prend goût à la bande dessinée dans un premier temps. Arrivé à Kinshasa, pour vivre, tout simplement, il va très vite se faire recruter auprès d'une agence publicitaire. Il va être peintre d'enseigne, mais il va aussi travailler pour une autre revue de jeunesse qui s'appelle Bilenge, ce qui veut dire les jeunes en lingala, où il va illustrer quelques histoires périodiques qui ne sont pas de sa main au scénario, mais qui sont scénarisées par Messatou Nkadi. Et vous en avez un exemple ici. Donc ici, c'est une très courte bande dessinée en quatre cases. Vous allez avoir aussi quelques bandes dessinées plus pérennes qui courent sur 4, 5, 6, 10 numéros, dont notamment une série qui s'appelle Lolo m'a déçu et une autre nommée La polygamie et ses conséquences. Et certaines de ces bandes dessinées courent également, selon les numéros, sur 4 à 6 pages. Donc on n'est pas toujours sur ce petit format. Par contre, on est toujours sur une matérialité très pauvre, encore une fois, parce que même si on est sur des revues très contrôlées par la censure, on est également, malgré ce contrôle de la censure, sur de vraies revues de jeunesse, publiées à un nombre d'exemplaires importants, entre 2 et 3 000, donc important, mais en même temps de manière très artisanale. Et c'est tout le paradoxe de ces revues qui ne sont ni des fanzines, ni vraiment des organes officiels du parti, qui sont d'ailleurs, ici, c'est, le texte est écrit en français, ce sont des revues qui sont souvent en fait rédigées en indoubile, qui est une forme d'argot qui mêle du français, du lingala, qui est la langue majoritairement parlée à Kinshasa, un petit peu d'anglais issu des westerns, qui est en fait un peu l'argot des bandits de Kinshasa développé à la fin de la période coloniale et qui va continuer à être en usage dans les années 70. Et donc par cette langue, on pourra avoir quelques touches de subversion parce que les autorités ne verront pas forcément à un moment T, au moment de la publication, le sens d'une phrase ou d'un mot qui sera finalement découvert après. Et donc ça, en fait, ce sont les débuts de Chéri Samba. Et pour moi, la bande dessinée, c'est très important. On l'évoque très peu quand on parle de Chéri Samba. C'est très important parce que ça va vraiment structurer son rapport au texte et l'importance du texte dans la composition de ses tableaux. À la même époque, je vous l'ai dit, il est également peintre d'enseigne. au sein de l'APUSA, qui est l'agence publicitaire zaéroise, qui est un organe semi-étatique. Il circule aussi beaucoup dans les rues de son quartier depuis qu'il vit à Kinshasa, et il croise des ateliers de peintres comme Moquet, Chéri Chérin, Baudot, qui sont tous des peintres dits populaires, tous des peintres qui sont peintres d'enseigne pour assurer le quotidien, et à côté de ça, peignent des gouaches de plus ou moins petit format, de scènes iconiques, qui décrivent la vie politique, la vie quotidienne, d'une part, ou des scènes de paysages, des scènes de forêt, de village, de pêche, tous ces petits formats étant, à l'époque, achetés par une clientèle locale, congolaise, quinoise, pas forcément très fortunée, et qui utilise ces tableaux, soit quand il s'agit de paysages, comme on mettrait des photos de l'endroit d'où on vient quand on a immigré récemment en ville, soit tous ces autres tableaux, ces scènes iconiques qui parlent du politique, en sachant très bien que ça parle du politique et en se sentant éminemment concerné par ces scènes. Je vais accélérer un petit peu. Donc je vais plus coller à mon papier pour être sûre de ne pas digresser. Donc il circule, il rencontre ses peintres populaires et en 75, il fonde son propre atelier où il va commencer par peindre les mêmes scènes, des paysages, des scènes iconiques, sans texte. Sauf qu'il va très vite se rendre compte que ce n'est pas très intéressant de faire ça. Il expose les tableaux devant son atelier, à même la rue, comme tous les peintres le font. Mais il le fait comme tous les peintres le font. Donc les passants s'arrêtent très peu et il va décider d'utiliser le texte pour arrêter le regard des passants, pour créer en fait une relation privilégiée avec les passants qui vont devoir s'interroger sur ce qui se passe, sur ce qui est écrit, sur pourquoi il a écrit ceci ou cela, quel est le rapport avec l'image, pourquoi parfois c'est en décalage avec l'image. Et c'est à ce moment qu'il va vraiment adopter ce principe BD-esque sans être dans la BD, de toujours avoir du texte dans son image. À l'époque, il vend toujours quasi exclusivement à des Congolais. Il parle à Et à partir de 78, tout va changer. Il va être beaucoup plus connu suite à une exposition importante qui a lieu à Kinshasa, à l'Académie des Beaux-Arts, qui s'appelle Art Partout, qui est sous-titrée Art Zaïrois moderne, Art Zaïrois populaire, et à l'occasion de laquelle il va rencontrer des Européens expatriés ou Européens vivant sur place. Je passe très très vite, il va rencontrer des Européens qui travaillent au Musée national sur place, d'autres qui voyagent, des universitaires, des expatriés qui vivent à Kinshasa mais qui travaillent pour le privé. Et de cette manière, il va commencer à être en contact avec des Européens. C'est le moment où il va commencer à utiliser du texte, mais plus seulement en lingala ou en français, mais en langue anglaise. Et c'est le moment où en fait son œuvre va pouvoir commencer à s'exporter. Et ce moment charnière est important parce que c'est le moment où il va vendre à plus cher et où finalement la matérialité de ses œuvres va être différente, notamment en termes de format et en termes de qualité de peinture. Mais donc dès le début, et je vous disais qu'il a ouvert son atelier en 75, c'est sûr parce qu'il a réalisé un autoportrait en 75 avec la date d'ouverture de son atelier, ici on est en 81. Dès le début, en fait, dans sa pratique, il va, ici on est encore sur un panneau de bois de pas très bonne qualité et un tableau certainement destiné à être vendu surtout localement. Dès le début, il va, aux côtés de tous les tableaux où il commente la vie quotidienne, dans un grand de ces tableaux, il va s'auto-commenter, commenter l'évolution de sa carrière, commenter la manière dont il vend, commenter pourquoi il peint. Ici, dans cet autoportrait de 1981, vous le voyez dans son salon, avec tous les éléments d'un salon petit bourgeois, avec tout le confort de la vie moderne, un fauteuil confortable, un tourne-disque, une télévision allumée. Il a donc l'électricité, un réfrigérateur. Sur l'écran de la télévision allumée, il est noté sur le podium avec Emedi Mb, qui sont en fait les initiales de Emedi Mwanamboyo, qui était un animateur de télévision qui invitait des artistes à la télé. Donc cet autoportrait qui est sous-titré de tout un tas de phrases qui expliquent qu'il fait de la peinture populaire, et là pour expliquer à la fois qu'il fait de la peinture populaire, qu'il en vit bien, qu'il passe à la télévision, Ça, c'est une première chose. Et à la même époque, il va expliquer que s'il décide de se représenter, c'est parce qu'il passe à la télévision à Kinshasa, mais il ne passe pas à la télévision en dehors du Congo. Et que si lui ne parle pas de lui, personne ne parlera de lui. Qu'il n'est pas star de télé et que la seule manière de se faire connaître comme une star de télévision, c'est de se représenter. Et du coup, vous avez tout ce jeune narcissisme qui peut paraître très vain, presque gratuit, sauf qu'au fur et à mesure de sa carrière, il va de plus en plus se mettre en scène pour parler d'un récit de l'histoire de l'art. Ici, et du coup, je vais passer très vite sur tous ces tableaux et on pourra en reparler pendant la discussion. Ici, c'est une toile qui s'appelle Une peinture à défendre, où il se représente devant une peinture d'un autre artiste qui s'appelle Moquet, et où il se place devant elle pour empêcher des collectionneurs de s'en emparer et de s'emparer aussi du discours qui entourerait cette toile. Ici, de la même manière, je vous parlais de ce triptyque qui interroge la place des objets, des œuvres d'art contemporains issus du continent africain dans les musées. Ici, il interroge la place des objets d'art classiques dans les musées, dans un tableau qui s'appelle Hommage aux anciens créateurs, dont il existe plusieurs versions et dont il a réalisé une version à chaque fois qu'il visitait un musée d'ethnographie en Europe. Donc ici, il parle d'un musée en Allemagne. Et donc à chaque fois, vous avez ce même dispositif dont seul le texte change, où il dit « Je suis allé voir tel musée, je ne comprends pas pourquoi ces objets sont là-bas, pourquoi je dois aller là-bas pour savoir qu'ils existent. » En peinture, il va aussi régler des comptes. Un certain nombre de monographies vont être écrites à son sujet à partir des années 90. Et la première grosse monographie à son sujet est écrite par l'historien et historien d'art et anthropologue Bogumil Jeffsiviki, qui était enseignant à l'université de Kinshasa à l'époque, qui est aujourd'hui au Canada. Et donc Sheri Samba n'apprécie pas trop cette monographie, dans laquelle, entre autres, Bogumil Jeffsiviki dit que Sheri Samba ne sait pas très bien se représenter et qu'il n'est pas bon pour se représenter. Du coup, Sheri Samba, comme un pied de nez, fait un autoportrait de lui avec une photo à côté de lui pour faire deux autoportraits, pour montrer qu'il sait vraiment le faire, représente fidèlement la couverture de la monographie, même Bogumil de dos, et titre son tableau, Sheri Samba corrige l'historien Bogumil Jeffsiviki. Il n'y en tient pas tant rigueur que ça, parce que plus tard, toujours à la fin des années 90, dans deux versions d'un même tableau qui s'appelle L'espoir fait vivre, qui fonctionne sur un principe d'une spirale, qui reprend son parcours depuis le village où il est né jusqu'au moment où il s'est mis à voyager. Vous avez une représentation des premières conférences que fait Bogumil Jeffsiviki à son sujet au Canada. Et vous le voyez là-haut projeté. Vous avez également dans une des versions de ce tableau, tout en haut de la spirale, des exemplaires de la revue Bilingue où il écrivait et où il dessinait des BD dans les années 70. Enfin, toujours en allant plus loin, et ces tableaux sont chronologiques, hein, plus on avance, plus on est dans une période récente, il va plus récemment terminer, ou en tout cas terminer de proposer de corriger le récit des historiens d'art avec cette série de deux tableaux qui me paraît très intéressante. Celui-ci qui s'appelle « Enfin après tant d'années » qui représente le peintre Moquet qui est décédé aujourd'hui devant une cimaise de musée, devant une toile de sa main, donc Moquet est devant une toile de Moquet, et vous avez en haut à droite une toile de Sheri Samba. En bas à droite, un tableau inspiré de Magritte. En bas à gauche, une toile qui semble être inspirée des cartes de Frédéric Brûlis-Boisbré. En haut à gauche, une Madone inspirée de tout un tas de codes de la Renaissance italienne. Et enfin, complètement sur le panneau de gauche, une interprétation libre d'un des monochromes de Newman. Et il va finir par faire la même chose avec lui. Donc vous avez cette œuvre qui s'appelle Aussi au plafond, où on ne voit pas, je pense, très bien sur les détails, surtout que j'ai dû mettre le fichier en basse définition, si on ne s'est passé pas. Mais tous les médaillons que vous avez en bas sont en fait un motif avec du texte qui répète toujours aussi au plafond et qui vient accentuer cette idée que ça y est, en fait, mes tableaux sont sur des cimaises et on peut empiler cette histoire de l'art partout. Et il se présente lui-même devant un de ses tableaux que vous voyez en bas sur la gauche, qui est un tableau qu'il a peint dans les années 80 qui s'appelle Marche de soutien. Le titre complet, c'est Marche de soutien. C'est pour le sida, mais j'ai plus le titre en entier. Si je cherche le titre, je vais perdre du temps. Mais il est aux côtés de Annette Newman, de Dali, de Keith Haring, de Basquiat, de Magritte, de Picasso, toujours dans des réinterprétations libres qui permettent de reconnaître les artistes, mais dont il arrange les couleurs, dont il les rend plus chatoyantes. Et donc, ouais, c'est un peu brouillon, mais je crois que je vais m'arrêter là pour en discuter.
Je ne sais pas si vous avez des questions un peu là. Nous, on vous a donné un petit peu des choses précises sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on travaille, le cadre, ce qui nous motive et dans quoi on souhaite s'inscrire. Peut-être que vous avez des choses à nous demander.